Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Désolé pour ce changement qui est dû à une panne technique au dernier moment. Mais, j'espère que ça se passera bien maintenant. Ce cours donc, va porter sur l'espace en musique et j'ai le plaisir d'accueillir pour le séminaire qui suivra Philippe Leroux, qui est un compositeur français, mais qui habite au Canada, qui est professeur à McGill University, qui va traiter lui aussi de l'espace. Ce qui s'est fait, c'est qu'on ne s'est pas concerté, donc on va un petit peu découvrir l'un l'autre le traitement du sujet, ce qui est plus intéressant, parce que comme ça pourra peut-être donner matière à la discussion, à des différences de point de vue. Mais voilà, il ne s'agissait pas de répéter des choses qui ont été dites. Alors, l'espace, je l'ai mis dans ce chapitre, enfin disons dans cette première série de cours qui s'appelle « Repenser les formes », parce que je vais montrer à la fin de ce cours un projet sur lequel je travaille et qui est vraiment quelque chose dans lequel je tente de repenser la forme de l'orchestre, c'est-à-dire la disposition spatiale de l'orchestre. C'est un projet qui s'appelle la trilogie Köln. Ce sont trois pièces d'orchestre pour orchestre spatialisé autour du public. Et deux ont déjà été créées. La troisième sera créée en 2019, mais je pourrais vous montrer des extraits vidéo sonores de la première et des extraits vidéo de la seconde. C'est pour ça que j'ai traité cette thématique de l'espace dans cette grande thématique de repenser les formes qui constitue la première partie de mes cours pour cette année. Alors, parler de l'espace avec juste deux haut-parleurs sur scène, ça peut paraître un petit peu difficile, mais bon, l'espace n'est pas que l'espace physique, ça peut être l'espace mental, ça peut être l'espace intérieur, et il y a différentes formes de catégories dans la musique dans lesquelles on peut intégrer cette notion de l'espace. Le traitement de l'espace en musique est assez ancien. Quand je parle de musique, entendez évidemment musique traditionnelle occidentale, parce que c'est de ça dont je parle, donc je ne veux pas le repréciser à chaque fois. Mais on sait, par exemple, que le traitement de l'espace était très utilisé à l'époque baroque, par exemple, et tout le monde connaît, on a entendu parler, des œuvres de Gabrielli qu'il avait composées pour Saint-Marc de Venise, et puis on sait aussi que Bach, quand il faisait ses passions, disposait de manière spatiale les chœurs, ce n'était pas du tout une musique qui était groupée. La raison... Pour moi, en tout cas, la raison de cette spatialisation, c'est que la distribution spatiale, ça développe l'écoute polyphonique. C'est-à-dire que si vous avez des sources sonores qui jouent des musiques différentes, puisque c'est ça le but de la polyphonie, c'est la superposition de musiques différentes avec une certaine cohérence, évidemment, si ces sources sonores sont regroupées dans le même espace ou proviennent d'un même lieu, elles vont avoir tendance à se mélanger et on va avoir tendance à ne pas pouvoir les distinguer. Le fait de les distribuer spatialement, ça va considérablement développer l'écoute et faire ressortir les différences et les relations de complémentarité ou d'opposition que ces couches sonores entretiennent les unes avec les autres. Je vais vous en donner un petit exemple, mais qui est fait à partir d'un montage que j'ai fait justement d'une de mes pièces spatialisées, qui est la deuxième de ce cycle, qui s'appelle In Situ, et qui je l'ai retravaillé avec en studio. Et sans vous le dire à quel moment, à certains moments, vous allez entendre les sons qui sont vraiment répartis dans l'espace avec cet enregistrement stéréo, c'est-à-dire que chaque haut-parleur donnera quelque chose de différent, disons un signal différent, et à certains moments, j'ai copié le même signal sur les deux haut-parleurs, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de différence entre ce qui vient de gauche et ce qui vient de droite. Et je pense que vous allez vous apercevoir que, comme c'est une musique assez polyphonique, vous allez vous apercevoir qu'à certains moments, l'image sonore que vous allez voir va être beaucoup plus ramassée et beaucoup plus étendue. Ce n'est pas juste la question de la spatialisation, mais c'est même la question de la perception polyphonique de la musique. Alors, c'est une pièce qui est composée pour 8 groupes instrumentaux répartis autour du public. Alors évidemment, ça, je ne peux pas vous les donner ici, puisqu'on n'a que 2 haut-parleurs. Même si on en avait 8, ce serait assez compliqué. Mais c'est une pièce dans laquelle le public est assis au milieu et tout l'orchestre est dispersé autour. Et donc voilà ce petit extrait où vous allez entendre, à certains moments, que le son devient monophonique, ou disons devient... Oui, monophonique en opposition à polyphonique, c'est-à-dire que l'image se rétrécit dans certains passages de la pièce. Excusez-moi. Dans la musique a pris vraiment son essor, je dirais, surtout à l'époque romantique, c'est-à-dire qu'il a été inclus comme une donnée poétique supplémentaire dans la musique et dans l'invention musicale. Et bon, il y a beaucoup d'exemples qui sont très, très célèbres, ben, chez Beethoven, par exemple, la symphonie pastorale. Mais il y en a d'autres qui me paraissent tout à fait, moi, intéressants. Le premier auquel j'ai pensé, c'était la fin de la scène au chant de la symphonie fantastique de Berlioz, qui reprend le début de ce mouvement, c'est-à-dire qu'au début de ce mouvement, vous avez un solo de cor anglais auquel répond un solo de hautbois, comme deux instruments qui se répondent dans la campagne, dans la nature. Berlioz reprend la même structure à la fin de ce mouvement, mais il supprime le hautbois. Le hautbois, on n'a que le cor anglais qui fait son solo, mais qui n'a plus de réponse. Et comme toute réponse, Berlioz choisit quelque chose qui était tout à fait nouveau pour l'époque, c'est-à-dire un roulement de timbales. C'est-à-dire que c'est un bruit. Ce n'est pas du tout quelque chose de structuré musicalement. C'est un bruit, et il avait accordé ces timbales d'une manière qui reste un mystère pour tout le monde, c'est-à-dire que, si je me souviens bien, c'était la bémol do, si bémol fa. Donc, on ne sait pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec la tonalité. Probablement, avait-il expérimenté cet accordage avec les timbales de l'époque. On ne peut pas du tout être sûr que la manière dont quand on les accorde comme ça avec les timbales modernes, que ça donne la même chose. Mais en tout cas, il y a ce roulement de timbales très lointain et qui donne vraiment cette évocation d'un espace qui est très suggestif, qui répond donc au solo de cor anglais. Donc on a ce premier exemple qui nous montre que le cor anglais continue sa mélodie, qui se développe, alors que la réponse est totalement immobile. C'est cette évocation d'un orage lointain qui est donné par les timbales. Alors un autre exemple assez célèbre, c'est celui de Gustav Mahler, qui a beaucoup exploré ces données spatiales dans ses symphonies. Parce qu'il y a beaucoup de groupes d'instruments qui se situent en coulisses, donc hors de la scène. Et on sait par l'anecdote que Mahler, quand il était enfant, il vivait dans une petite ville de Bohême, Kalisztě, et on sait qu'il était souvent intrigué par des groupes de musique, de musiciens, alors que ce soit des musiciens militaires ou d'autres types de musiciens, qui venaient sur la place du village. Et donc, il a eu cette évocation de musique qu'on entendait de loin et qui venait. Et on raconte même qu'il avait un petit accordéon et qu'il les suivait en essayant de jouer en même temps qu'eux. C'est une anecdote qui rejoint une autre anecdote à peu près à la même époque, qui était celle de Charles Ives aux États-Unis, dont le père était chef de musique militaire et qui était un grand, peut-être pas un grand musicien, mais un grand original, et qui s'amusait à faire jouer trois orchestres militaires, des musiques différentes, à partir de trois coins différents de la ville, et ils se réunissaient pour jouer cette superposition des trois musiques sur la place centrale. On va écouter un extrait de la troisième symphonie dans lequel il y a un solo de corde de piston, cornet à piston, qui se trouve à l'extérieur de l'orchestre et qui donne déjà le son très lointain par rapport à l'orchestre, mais aussi une autre chose qui est tout à fait frappante, c'est que ça anticipe sur quelque chose qu'on pratique beaucoup aujourd'hui en musique électronique, c'est-à-dire c'est l'espace invisible, c'est-à-dire qu'on entend le son, on ne voit pas les musiciens. Ça, c'est une grande question qui se pose. Comment est-ce qu'on perçoit la musique quand on voit les musiciens, quand on comprend l'activité physique qui produit le son, c'est donc les yeux renseignent beaucoup, mais comment est-ce qu'on perçoit la musique quand on n'a aucun renseignement sur la manière dont le son est produit, et sur le type de son qui va être joué. Donc c'est une question qui est très importante et qui agite beaucoup maintenant la musique, surtout avec la musique électronique. Et déjà, chez Mahler, on avait cette question qui était posée, ne serait-ce que subliminalement. Cette évocation du lointain a été souvent poursuivie dans la musique, et une œuvre contemporaine assez connue qui l'exprime le mieux, c'est une œuvre de Ligeti qui s'appelle Lontano, qui joue beaucoup aussi sur la musique entendue de loin. L'intérêt de ce genre de je ne dirais pas d'expérience, parce que c'est beaucoup plus une expérience, c'est vraiment une œuvre assez forte, c'est que ça nous oblige à tendre l'oreille. Et ça, c'est quelque chose qui est très important en musique. Si vous arrivez à faire que quelqu'un tend l'oreille pour écouter, vous avez gagné, je dirais. J'aime bien cette idée, puisque je pense que les œuvres d'art demandent à ceux qui les écoutent de faire un pas vers elles. Ce n'est pas uniquement l'œuvre qui arrive vers le public, mais c'est au public aussi d'aller vers elle. Et c'est ce qu'a fait Ligeti avec Lontano, qui est donc une pièce d'orchestre qui a été utilisée aussi, qui a été beaucoup utilisée dans le cinéma, puisque c'est celle dont Stanley Kubrick s'est servi pour la musique de son film The Shining. Ou si vous avez ça dans les oreilles ou dans les yeux, vous allez reconnaître probablement certains aspects. Si je retrouve ma souris. Voilà. C'est une musique qui se meut de manière très lente, et ces sons aigus que vous avez entendus au début, moi, à chaque fois que je les ai entendus, ça m'a évoqué toujours le même chose, c'est ce qu'on appelle les acouphènes. C'est-à-dire que quand vous avez quelques problèmes d'audition, vous entendez un sifflement. Mais pour entendre ce sifflement, vous devez être dans le complet silence. Dès qu'il y a du bruit autour de vous, vous ne l'entendez pas. Donc c'est le son qui révèle finalement un silence. Alors, l'espace, je vais le traiter maintenant comme l'écran, c'est-à-dire ce qui construit le son. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on entend du son, vous n'entendez pas que le son lui-même, mais vous entendez le son et l'espace qui le porte. Et parce qu'on a analysé ces choses-là, c'est-à-dire que tous les sons qui arrivent se répercutent, vous le savez, les ondes se répercutent contre les parois, et on sait très bien maintenant simuler, par exemple, des spatialisations juste en transformant la forme de l'onde. Et on entend donc le signal direct du son, évidemment, mais on entend beaucoup le signal qui vient des répercussions et des diffractions du son dans la salle. Et effectivement, on a l'habitude d'écouter des sons dans un espace, et c'est l'espace qui construit le son. Et là, voici une petite expérience. J'avais construit il y a quelques années pour un opéra qui s'appelait K, qui a été joué à la Bastille, un chœur de synthèse. Et quand on travaille la synthèse sonore, d'abord, on travaille le son pur, la synthèse. Et la synthèse sonore pure n'a pas beaucoup d'intérêt, je dirais, parce qu'on entend vraiment les artefacts. Et vous allez voir qu'on va écouter quelques secondes de ce cœur artificiel donc, qui a été refait avec de la synthèse, mais à partir de l'analyse de voix réelle. On va l'écouter sans espace. Et ensuite, là, vous allez entendre quelque chose qui est un peu râpeux, je dirais rustre. Et ensuite, on va l'écouter dans un espace et vous allez voir comment le son se construit et comment, finalement, la perception qu'on en a, c'est que c'est un véritable cœur. C'est un chœur que vous avez entendu comme totalement artificiel, évidemment, il l'est. Voilà le même, mais cette fois-ci donné dans un espace assez réverbéré, et vous allez voir que le côté artificiel du chœur disparaît pour devenir ce qui pourrait être un chœur réel, alors qu'il ne l'est pas. La construction du son, c'est-à-dire que l'espace qui est comme je l'appelle un écrin, c'est-à-dire que c'est l'espace qui porte vraiment le son et qui le construit. Maintenant, on peut voir une autre chose, c'est ce qu'on pourrait appeler l'espace comme un filtre. Et j'ai choisi alors un texte qui m'a toujours intrigué, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, qui est un texte célèbre, enfin ce sont des extraits du texte, c'est un texte qui provient du second tome de la recherche de Proust, Allons déjà filer en fleurs. Je vous propose d'abord de l'écouter avec le texte lu, et ensuite je vous dirai pourquoi je l'ai choisi.
J'avais vu descendre de voitures et entrer, les unes dans la salle de danse du casino, les autres chez le glacier, des jeunes femmes qui, de loin, m'avaient paru ravissantes. J'étais dans une de ces périodes de la jeunesse où partout on désire, on cherche, on voit la beauté. Seule, je restais simplement devant le grand hôtel à attendre ma grand-mère quand, presque encore à l'extrémité de la digue, où elle faisait mouvoir une tache singulière, je vis s'avancer 5 ou 6 fillettes aussi différentes par l'aspect et par les façons de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbec, qu'auraient pu l'être, débarquées on ne sait d'où, une bande de mouettes qui exécute à pas compter sur la plage une promenade dont le but semble obscur aux baigneurs qu'elles ne paraissent pas. Elles n'étaient plus loin de moi, et quand, selon l'ordre dans lequel se déroulait cet ensemble, merveilleux parce qu'il voisinait les aspects les plus différents, que toutes les gammes de couleurs y étaient rapprochées, mais qui étaient confus comme une musique où je n'aurais pas su isoler et reconnaître au moment de leur passage les phrases, distinguées mais oubliées aussitôt après. Un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts, je ne savais pas si c'était les mêmes. Et cette absence dans ma vision propager à travers leur groupe un flottement harmonieux, la translation continue d'une beauté fluide, collective et mobile. Désir douloureux, mais enivrant, parce que ce qui avait été jusque-là ma vie, ayant brusquement cessé d'être ma vie totale, n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je brûlais de couvrir et qui était fait de la vie de ces jeunes filles, m'offrait ce prolongement, cette multiplication possible de soi-même qui est le bonheur. Cette fugacité des êtres qui ne sont pas connus de nous, qui nous force à démarrer de la vie habituelle, nous met dans cet état de poursuite où rien n'arrête plus l'imagination.
Rien n'arrête plus l'imagination. Voilà le mot le plus important pour moi. Qu'est-ce que Proust nous dit, selon moi, dans ce texte ? Je ne suis pas un critique littéraire, donc je m'avance un peu, mais je le dis quand même. C'est que l'absence de clarté, c'est-à-dire que la distance qui est produite par l'espace, qui sépare donc celui qui regarde et l'objet regardé, la distance qui donc obscurcit en principe la clarté de la vision, loin d'être un masque, loin d'être un filtre, devient un phénomène d'attrayance. C'est-à-dire que moins c'est clair, plus on est attiré. Et justement, c'est ce que Proust décrit, à mon avis, dans ce texte, c'est que finalement, le fait qu'il n'arrive pas à distinguer, c'est un ovale blanc, les couleurs, les formes sont très peu nettes, développe son imagination. C'est plus, on cherche à savoir ce que c'est, et en cherchant à savoir ce que c'est, on fait appel à tout un tas, je pense, de circuits mentaux, qui vont nous rapprocher des formes les unes avec les autres et qui vont développer notre imagination. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement c'est le paradoxe du fait que la distance et le manque de clarté, loin d'obscurcir finalement l'intérêt, le décuplent à certains moments. Et il y a un musicien qui a bien compris ça, qui l'a fait deux fois et surtout une fois, c'est peut-être d'ailleurs le moins proustien de tous les compositeurs, c'est Ravel. Et le passage le plus connu, c'est évidemment le début de la valse, où vous avez deux motifs de la valse qui sont totalement, je dirais, englués dans une masse sonore très peu distincte. Mais finalement, ensuite ça va arriver à la clarté, mais cette absence de distinction va au contraire nous forcer à prêter attention et à être plus attentif à ce qui se passe que si c'était introduit de manière brutale.
Thank you.
maintenant le thème arrive. Et donc, il a été préparé de différentes manières, mais dans ce brouillage. Alors, là, le exemple beaucoup plus connu, enfin très connu, qui est vraiment aussi, à mon avis, le premier exemple qui est, moi, dans l'histoire de la musique que j'ai vu, où on simule une source qui bouge. C'est-à-dire que vous avez l'orchestre en face de vous, et vous avez vraiment l'impression que les choses avancent. Donc, c'est ce qu'a fait Debussy dans le deuxième mouvement des Trois Nocturnes, qui s'appelle Fête, où il avait pris cette idée en entendant un orchestre qui jouait dans le bois de Boulogne, apparemment. C'est une petite fanfare qui, d'abord, commence avec les trompettes avec la sourdine, mais toujours sur scène. Donc, la distance entre l'auditeur et la source ne varie pas physiquement. Mais les trompettes sont traitées avec des sourdines, donc ça assourdit évidemment et ça filtre le son. Ensuite, c'est venu avec les bois, les flûtes, les clarinettes et les hautbois, donc avec un nombre de musiciens supplémentaires et des sons un peu plus clairs, avec un spectre plus clair. Et la troisième fois, c'est tout l'orchestre qui joue. Donc vous allez avoir cet approchement en trois étapes de cette marche, mais qui est vraiment une simulation faite par la magie de l'orchestration, alors que dans la réalité, évidemment, les instruments sont à la même distance que vous. Et ça, c'est un des premiers grands traits assez connus du génie de l'orchestration de Debussy. Cet exemple. Alors, cette idée d'une musique qui est entendue de loin et qui nous attire ou qui nous pose des questions, je l'ai vécu moi-même quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant. Je gagnais ma vie, quand j'étudiais le piano, en jouant du piano dans les cours de danse, pour exercer ces demoiselles à faire des exercices. Et les cours de danse étaient souvent des lieux très réverbérés, très grands, et quand j'arrivais, il y avait un pianiste qui était avant moi et qui jouait. Et donc, moi, si je devais commencer à 16h, donc j'arrivais un quart d'heure avant, et j'entendais le piano qui était au fond. Et je me rappelle très bien que ce qui me frappait, c'était que j'entendais ça de l'extérieur et j'entendais le piano qui est passé par toute cette réverbération. Il m'était impossible de savoir ce que jouait le pianiste. Je ne savais pas si c'était du 3 temps, du 4 temps, du 2 temps. Je pouvais ne savoir que ce qu'il jouait si c'était dans l'aigu, dans le grave, à peu près. Mais il était impossible de distinguer les éléments les uns des autres, puisque c'était, cette fois-ci, là, totalement brouillé par la salle. Et j'ai toujours eu cette espèce d'image fantasmagorique en tête. Et un jour, j'ai décidé de l'utiliser dans une de mes pièces qui s'appelle Pasakai pour Tokyo, que j'avais écrite en 1994, dans laquelle il y a un piano dans les coulisses, comme une espèce de démon qui agit à certains moments. Le piano dans les coulisses ne suit pas le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il joue à certains moments. Alors, il suit la musique sur une partition, mais il n'est pas dirigé. Il n'y a pas de contact entre le chef d'orchestre et le piano. Et donc, le piano dans les coulisses répond au pianiste soliste, parce que c'est une œuvre pour piano, solo, comme un mini-concerto, piano solo et ensemble. Donc, on a un pianiste sur scène qui joue des choses très virtuoses, très détaillées et très ciselées, je dirais, et le piano dans les coulisses en fait une ombre. On fait une ombre, on fait un écho lointain, et il ne donne que la texture générale, c'est-à-dire si ça monte dans l'aigu, si ça descend dans le grave, etc. Quand le pianiste fait une gamme, le piano dans les coulisses fera un glissando, par exemple. Et à certains moments, cette ombre se révolte contre le soliste. Et donc, vous allez avoir un petit extrait dans cette chose-là, où vous allez entendre un piano lointain et peu distinct qui va essayer de dialoguer avec un piano qui, lui, est vraiment sur scène. Maintenant, on va en arriver à quelque chose qui est, pour moi, un sujet assez difficile à traiter et assez complexe, qui est la perception des formes spatiales. Comment est-ce qu'on perçoit les formes dans l'espace ? J'ai Moi, j'ai une idée, alors je ne sais pas s'il est partagé par tout le monde, on verra peut-être avec Philippe Leroux s'il la partage ou pas, c'est que notre perception des formes spatiales est limitée. C'est-à-dire que je pense qu'on peut percevoir des formes assez simples, mais que notre perception des formes, enfin notre reconnaissance de formes, on peut percevoir des formes complexes, mais la manière dont on va reconnaître des formes complexes dans l'espace est quelque chose d'assez limité. Notre possibilité de mémorisation des formes est assez limitée. Alors il y a un exemple qui est très très assez connu que j'ai pris comme modèle, c'est le dans Répond de Pierre Boulez, donc qui est une pièce pour six solistes, orchestre et électronique. Et il y a l'entrée des solistes, un passage qui est assez connu. Vous avez comme ça des accords qui sont joués par donc, un piano, un vibraphone. Ici, c'est une harpe. Vous avez un cymbalum et de nouveau un piano. C'est à peu près le même accord, c'est à peu près le même objet. Et Boulez disait, quand il parlait de ce passage-là, il comparait ça à un objet qui était éclairé une bougie qui était éclairée par différents miroirs et qui reflétait des choses différentes. Et ce qui se passe ici, dans cette pièce-là, c'est qu'à chaque fois qu'un instrument joue un de ces accords-là, il y a un système de réverbération et de spatialisation qui va prendre l'accord et le promener dans une certaine trajectoire autour du public, parce qu'il doit y avoir 7 ou 8 haut-parleurs autour du public. Donc vous avez un accord qui est joué sur scène, et cet accord va suivre une trajectoire assez complexe. Et ensuite, il y a un deuxième accord qui va suivre une autre trajectoire assez complexe. Donc je sais que Boulez a dessiné très précisément l'évolution de cette trajectoire, c'est-à-dire si ça vient de droite, si ça va au fond, si ça va à gauche, etc. Il a dessiné ça de manière très précise, comme toujours. Mon idée, c'est que finalement, on entend que ça bouge, surtout. Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment reconnaître des formes, mais ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà cet exemple. Donc, au début, vous avez ces accords, et vous allez entendre ces diffractions vous allez entendre les accords, et ensuite, ils sont repris de manière assez régulière, mais... Alors, vous n'allez pas l'entendre dans l'espace, puisque malheureusement, on n'a que deux haut-parleurs. Mais il faut me croire sur parole, c'est tout. Ces miroirs qui se déroulent. Alors ça se passe comme ça, c'est-à-dire que vous avez ici un son qui part d'un haut-parleur. Là, vous avez 8 haut-parleurs, un son qui part d'un haut-parleur et qui voyage du quatrième, il va au troisième. Ensuite, il va ici, il revient vers là et il fait comme ça toute une série de répercussions. Donc ici, j'ai marqué un son voilà, qui ferait cette trajectoire-là, c'est-à-dire ici, là, ils continuent, ça descend, et il arrive là. Ici, vous avez un deuxième son, une deuxième trajectoire, qui fait une trajectoire totalement différente. Donc les formes sont totalement différentes. Il passe de l'avant, de droite à gauche, ensuite il va vers l'arrière, ensuite il remonte en diagonale, et j'ai dû oublier quelque chose. Non. Attendez, j'arrive pas à lire le... Ah oui, où est-ce qu'il commence ? Ah oui, il commence là, excusez-moi. Il fait ça, il part de là, il va là, il fait cette trajectoire, et voilà, il fait cette trajectoire. Donc les deux formes sont totalement différentes, elles ne se ressemblent pas. La question que je pose, c'est est-ce qu'on peut reconnaître l'une par rapport à l'autre si on les fait jouer l'un après l'autre. Alors je ne peux évidemment pas vous faire la démonstration avec deux haut-parleurs, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de dessiner ça sous une forme graphique, c'est-à-dire que vous avez ici, vous avez comme une portée musicale, mais là avec 8 lignes, parce qu'il y a 8 haut-parleurs, Et voilà, vous avez le parleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand vous avez le son qui passe de 1 à 4, à 3 et à 7, eh bien, ça fait ce graphique-là. Voilà, ça fait ce graphique-là. Donc, on avait, pour cette forme-là, on a cette représentation-là. Et pour cette trajectoire-là, on a cette représentation-là. Et là, on voit bien que ce sont deux formes qui ne se ressemblent pas, puisqu'elles ont des profils différents. Si maintenant, je prends ce profil et je l'utilise pour faire des mélodies, c'est ce qui se passe ici. J'ai pris le même profil et je l'ai utilisé pour faire des mélodies. Et là, vous allez entendre les deux mélodies et vous allez bien percevoir, même si vous ne regardez pas elles sont sur les mêmes notes, mais donc avec des profils différents, et vous allez percevoir la différence de profil mélodique qu'elle a. C'est ce que j'en parlais un peu dans mon leçon inaugurale, c'est ce qu'on appelait autrefois les neumes, hein, qui est une notion qui est très importante pour la. C'est-à-dire que c'est le profil général. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut. À l'oreille, on voit tout de suite. Il y a une manière dont on peut réduire cette information dans le premier. C'est qu'on peut le réduire à un schéma très simple qui est. Celui-ci, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est-à-dire quand vous avez un son qui monte, le suivant descend, etc., etc. Donc il y a ce changement-là. Et maintenant, on va réécouter la même mélodie, mais dans des espaces sonores différents, c'est-à-dire qu'ici, il est assez large, et je me suis amusé à l'enregistrer dans des configurations différentes. Vous allez voir que les mélodies sont différentes, les formes sont différentes, mais les profils sont les mêmes, on reconnaît une familiarité. Avec le deuxième profil. Toujours le même profil, mais les mélodies sont différentes. Alors, si j'ai donné ça, évidemment, c'est un peu la palissade. C'est évident que pour les hauteurs, on a une mémorisation qui est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire qu'on arrive à reconnaître, parce qu'on peut symboliser ça, justement, par ce petit schéma, c'est-à-dire que je peux réduire cette forme-là à celle-là qui est plus simple, qui est en deux états, 1, 2, 1, 2, 1 en bas, 2, c'est en haut, 1 en bas, 2, c'est en haut. Celui-ci, eh bien, ça monte une fois, ça descend trois fois, ça monte et ça descend. Donc, on le réduit sur quatre pas. Donc, l'information est un peu plus large, mais disons que c'est ce qui les réunit. Si on projette cette distribution, comme je l'ai fait avant, dans une forme spatiale, on aura beaucoup de mal à distinguer l'une de l'autre. La spatialisation est un outil très, très intéressant, mais je ne sais pas si c'est un outil qui parle formellement, c'est-à-dire que c'est un outil qui porte des formes. C'est-à-dire pour moi, la spatialisation ne parle pas directement, elle fait parler quelque chose, mais elle est très importante, mais je doute sur le fait qu'on puisse percevoir des formes très complexes. Alors on peut en percevoir évidemment des formes qui sont tout à fait clair, c'est-à-dire qu'un mouvement de gauche à droite se percevra tout le temps, d'avant en arrière aussi, un mouvement en diagonale aussi, un mouvement en rotation, je vais y venir, se perçoit très bien, et un mouvement en élévation se perçoit très bien. Il y a toutes ces choses-là. Ce qui est important, ce n'est pas tellement la perception des formes que moi je trouve. Ce qui est important, c'est plutôt le comportement spatial des objets sonores. Ça c'est une notion qui m'interpelle beaucoup. C'est-à-dire comment est-ce que les objets se comportent dans l'espace sonore. Et je vais prendre comme exemple une pièce à laquelle je suis très attaché, qui est Contact de Stockhausen. Pour moi, comme je le dis souvent, Contact est la musique électronique, ce que l'Orfeo de Monteverdi est à l'opéra. C'est un peu la pièce. C'est pas la première qui a été composée pour la musique électronique, mais c'est vraiment le premier grand chef-d'œuvre, à mon avis, de la musique. Et on va l'écouter, ce petit passage, et justement, on va percevoir justement la manière dont des éléments se perçoivent de façon spatiale. C'est-à-dire que vous allez entendre, dans certains éléments, des phénomènes de rotation. Et c'est comme ça que vous allez les reconnaître. Ce n'est pas par la hauteur, ce n'est pas par la mélodie, ce n'est pas par le rythme, mais vous allez les percevoir parce qu'ils vont vous donner l'impression d'avoir un certain comportement spatial qui va faire qu'on va les reconnaître. Et donc, ça, c'est la partition que Stockhausen a écrite. Il l'a écrite après coup, hein, je pense, mais elle donne, et on va s'intéresser juste à cette couche ici, cette partie-là, mais on va le réécouter deux fois pour bien comprendre. Alors, ce qu'on a écouté, c'est surtout cette couche-là, où il y a ces petits objets tournants qui au début font un crescendo et décrescendo, et ensuite qui interviennent, mais de manière discontinue. C'est-à-dire que c'est comme si ils étaient masqués par quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils suivent un mouvement spatial, c'est-à-dire du grave à l'aigu, et même aussi dans l'espace, mais là on ne peut pas l'entendre, il faudra voir plusieurs haut-parleurs, mais ils suivent un mouvement continu, mais ils n'en donnent à voir que certains moments. C'est-à-dire que c'est comme si on regarde quelque chose, on ferme les yeux, on regarde, si vous faites ça avec, par exemple, un nuage, vous regardez un nuage, et puis vous arrêtez, et puis deux minutes après, vous le regardez, il a changé de forme. Mais la forme, c'est poursuivi en continu. Et pour bien marquer ça, Stockhausen le fait... intervenir, ces petits moments-là interviennent avec des petits éléments qui sont joués par les pianos et les percussions qui vont le commenter. Donc on va le réécouter à cette lumière-là. Et il y a évidemment d'autres éléments qui sont en même temps ici, mais ce qui fait qu'on va reconnaître cette polyphonie, c'est à cause du comportement spatial, c'est-à-dire que cette manière de faire que les sons simulent une rotation par rapport aux autres. On est là. Maintenant, on diminue. Il s'arrête. Il diminue. Piano. À nouveau. Piano. À nouveau. Il s'arrête. Piano. Encore un autre. Et une dernière fois. Voilà. Il est monté. Cette couche est montée vers l'aigu. Par petits bouts, pas dans la continuité, mais c'est par le comportement spatial que ça agit. Justement, on va voir ce comportement spatial avec un effet que j'utilise souvent, qui est l'effet Leslie. Alors Leslie, c'était un monsieur qui avait inventé cet appareil-là, un Américain, et qu'on trouvait beaucoup dans un instrument qui s'appelait l'Orgamond, dont je vous connais de jazz, et qui était finalement des haut-parleurs qui étaient sur un socle et il y avait un moteur qui les faisait tourner. Ça faisait justement que le son faisait une rotation. Donc on a simulé cette chose-là avec l'informatique. Donc le son ici, vous allez entendre, ne tourne pas physiquement, mais il va vous donner l'impression de tourner puisqu'on reproduit les qualités acoustiques d'un son qui tourne. Donc c'est vraiment de la simulation, mais le son ne fait pas de mouvement réel dans l'espace, mais il va vous donner l'illusion de tourner. Alors, j'ai utilisé j'ai utilisé cet espace rotatif, c'est-à-dire ce son, dans cet opéra K, où j'appelle ça des toupies sonores, c'est-à-dire que vous avez on met le son sur ces petits modules de rotation, enfin de simulation de rotation, et vous les avez. Vous allez entendre des sons très aigus qui vont paraître tournés à très grande vitesse et qu'on va écouter ici. C'est dans le tout début de l'opéra K où il y a ces sons donc, qui vont tourner sur des petites toupies, ce qu'on pourrait imaginer être des petites toupies. Alors, ces petites toupies, je les ai mis ensuite sur des grosses toupies. Alors, ce qui n'est pas des toupies, c'est des circonférences. Vous avez écouté dans le début de cet extrait, on entend des voix qui chuchotent. C'est donc cet opéra K qui est fait d'après le procès de Kafka. Vous savez que le procès de Kafka, c'est une rumeur qui se colporte comme quoi Joseph K est accusé et que tout le monde participe à la rumeur. Et donc j'ai symbolisé cette rumeur par ce chuchotement. Et je me suis, en expérimentant, j'ai mis ces chuchotements sur ce système de rotation artificielle et que j'ai fait tourner très lentement. Et il se trouve que quand on le fait tourner très lentement, et peut-être aussi par le fait qu'on sait que ce sont des chœurs, donc beaucoup de gens en même temps, on a l'impression d'avoir placé une foule sur un grand disque qui va tourner devant vous. Et donc on a une image mentale de cette rotation qui est beaucoup plus grande que les toupies qu'on a écoutées, mais alors que c'est exactement le même système que j'ai utilisé dans un cas, dans un autre, mais avec différents types de sons et différentes vitesses. Ensuite, vous allez voir comment est-ce qu'on peut passer des petites toupies aux grandes circonférences, c'est-à-dire ces petites toupies aiguës qui vont, en se transposant et en ralentissant, changer de dimension et changer d'espace, espace tout à fait imaginaire, évidemment, puisque il n'est pas réel. Alors le temps passe, j'aurais beaucoup de choses, mais je voudrais en arriver plutôt à l'élément qui me tient à cœur, c'est la distance et un espace qui est très important, c'est l'espace de la salle de concert. Et la salle de concert, ce qui sous-entend la position de l'orchestre. Alors, j'ai pris quelques photos de salle historique où vous voyez que le placement du public par rapport à l'orchestre est toujours d'un point de vue frontal. Alors ici, il y en a un peu sur les côtés, ça c'est la fameuse salle du Conservatoire de Moscou, ça c'est le Concerthaus de Vienne, ça c'est une très belle salle qui est à Cleveland, la salle de l'orchestre de Cleveland, et voici par exemple l'orchestre philharmonique de Berlin. Vous voyez qu'ici, cette fois-ci, le public est tout autour, Voici le nouvel auditorium de Radio France. Vous voyez que l'orchestre est beaucoup plus central. Et la Philharmonie de Paris, qui est faite sur le même modèle. Et la plus récente, qui est la Philharmonie de l'Elbe, de Hambourg. Où il y a aussi, vous voyez, l'orchestre vient maintenant au centre. C'est très bien. Je suis tout à fait pour. Mais, quand même, je suis tout à fait pour. Mais si dans ces salles-là, on ne joue que des symphonies de Brahms, de Bruckner ou de Mahler, ça pose un problème. Parce que, aussi belles et aussi bonnes soient-elles, les symphonies dont je viens de parler ont été conçues pour une perception frontale. C'est-à-dire que quand Beethoven ou tous les classiques romantiques mettaient les violons devant et les percussions derrière, pour des raisons d'équilibre, parce que les percussions ou les cuivres sont beaucoup plus puissants, donc on les met derrière. Si vous écoutez cette musique-là et que vous êtes derrière, vous pouvez voir le visage du chef d'orchestre, ça peut être intéressant, mais vous aurez peu de chances d'écouter les violons. Donc, c'est très bien de faire ces salles-là, mais ça pose vraiment le problème du répertoire. Et la réponse que j'ai à ça, c'est juste, puisque ces salles existent, on va composer des pièces qui les mettent en valeur et qui vont utiliser cet espace. Et c'est le projet sur lequel je travaille. Alors, il y a des exemples historiques, hein, Gruppen, Karel Stockhausen, Xenakis, des pièces dans lesquelles le public était à l'intérieur de l'orchestre, Boulez Répond, je l'ai dit, et Emmanuel Nunes, compositeur portugais, très important, qui a fait beaucoup de travail dans la spatialisation. Je travaille pour la Philharmonie de Cologne, voilà la salle de la Philharmonie de Cologne, et c'est une salle, voilà la coupe de la salle de la Philharmonie de Cologne, c'est une salle qui est très pratique parce que ici c'est la salle vue de haut, c'est-à-dire que l'orchestre se trouve ici, mais on peut mettre des musiciens absolument partout. Et tout en rouge, c'est des espaces qu'on peut utiliser pour mettre des musiciens. Et je ne m'en suis pas privé, puisque dans la dernière composition que j'ai faite pour cette salle, qui est la salle pour laquelle je travaille, il va y avoir différents groupes d'orchestres qui vont être répartis autour du public de cette manière-là. Et vous allez écouter, par exemple, dans une autre pièce, voilà, différents types de dispositions instrumentales, mais vous allez écouter, par exemple, ce qui se passe dans la spatialisation, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un orchestre, et vous allez voir que le son, alors je vous l'explique, vous ne pourrez pas l'entendre vraiment comme ça, mais le son va de derrière et va petit à petit envahir totalement l'espace, c'est-à-dire que le son va arriver de derrière, et les instruments vont jouer petit à petit, et le son va remplir tout à fait l'espace. La partition se présente comme ça, et ce que je fais, c'est que je construis une colonne, ce que j'appelle une colonne sonore, qui va être joué ici, avec voilà, une construction qui vient de l'arrière et du grave. Et vous voyez, la partition le montre, on voit bien la colonne qui se construit petit à petit. Et ici, tout l'espace est occupé. Et on va voir ce que ça donne dans un enregistrement monophonique. Mais si vous n'avez pas l'espace, essayez d'imaginer. Ça vient de derrière et ça va. On a... Puisque vous ne pouvez pas le voir, le mieux c'est que je vous le montre. On va terminer avec ça, une petite vidéo dans laquelle vous allez voir comment est distribué l'orchestre dans la Philharmonie de Cologne. Donc c'est l'orchestre de la Gürzenich Orchester et c'est François-Xavier Roth qui dirige. Et comme ça a été fait avec plusieurs caméras, vous allez pouvoir... On va écouter 3-4 minutes de cette pièce où vous pourrez voir la disposition de l'orchestre. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez une partie de l'orchestre sur scène, tout le reste de l'orchestre est, je dirais, caché. Il vient de derrière ou des côtés, mais il n'est pas visible. Et tout le monde suit le chef d'orchestre avec des caméras vidéo. je vais arrêter là. C'était pour vous montrer ça, c'était pour vous dire que la grande question qui se pose, que je me pose en ce moment, mis à part quand je fais de la musique électronique, c'est que je me dis que ça fait quand même 2 siècles qu'on construit un orchestre de la même manière, c'est-à-dire qu'on assoit les musiciens de la même manière. Depuis Haydn, ça n'a pas changé. Et alors, c'est le problème du répertoire, évidemment, enfin, c'est le problème, la richesse du répertoire, mais je pense qu'il y a d'autres manières de disposer l'orchestre. Il y a énormément de choses à trouver, énormément de choses à inventer dans une nouvelle disposition de l'orchestre, et la nouvelle disposition spatiale de l'orchestre a énormément d'influence sur la musique elle-même, évidemment. Ce n'est pas juste mettre les musiciens dans une autre disposition, mais ça influence grandement la musique elle-même. Et c'est un des grands projets sur lesquels je travaille actuellement dans cette œuvre, dans cette trilogie qui s'appelle la trilogie Kuhn. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Philippe Leroux.